Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Campus FM 94 FM. Voici venue l'heure de rejoindre le Nid de Pie pour une nouvelle émission. Merci d'être toujours à l'écoute. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'animaux alcooliques. Si, si, ça existe. J'aurai ensuite le plaisir d'interviewer Laura Gervais, doctorante à l'Institut National de Recherche Agronomique, rattachée au Centre d'études Comportement et Écologie de la Faune Sauvage, mais aussi au Laboratoire Écologie et Diversité Biologique de l'Université Paul Sabatier de Toulouse. Elle étudie la personnalité chez le chevreuil. Bonjour Laura, et merci d'être avec nous aujourd'hui. Allez hop, accrochez-vous, on décolle. Certains adorateurs du monde animal ont tendance à s'exprimer, souvent dans les commentaires d'articles ou de vidéos sur Internet, sur les vices impardonnables de l'être humain. Ils s'attristent du comportement répréhensible d'Homo sapiens, alors que les autres animaux semblent bien mieux se tenir. On peut lire « Les animaux ne sont pas cruels, ils ne mentent pas, ne font pas d'excès, ils ne tuent pas leurs congénères pour d'autres raisons que celles de leur survie. En un mot, les animaux valent bien mieux que l'homme. » Sauf que ce n'est pas si simple, et que ces affirmations restent très anthropomorphiques. L'humain reste un animal comme les autres, et lui, comme d'autres animaux, peuvent exprimer des comportements que l'on peut juger complètement immoraux. Il y a de l'infanticide, des vols, de la tromperie, des viols, voire des guerres chez nos amis les autres animaux. Et je suis au regret de vous l'avouer, mais certains d'entre eux font parfois des abus et se retrouvent en état d'ébriété sur la voie publique. Il n'y a plus de morale. Vous avez peut-être déjà vu des poules se gaver de fruits trop mûrs et un peu trop pompettes, avoir un peu de mal à regagner leur poulailler, ou des écureuils zigzaguer dans les fourrés. En fait, c'est très courant. Les entomologistes avouent aussi avoir recours à la bière ou au vin pour attirer les papillons et autres insectes, tous intéressés qu'ils sont par une bonne lampée d'alcool. Car l'alcool, l'éthanol, dérive du sucre, qui a un apport calorique très intéressant. Pas étonnant donc que tout le monde en veuille sa part, parfois même à l'excès. C'est le cas de certains oiseaux qui se font vite piéger. En effet, il s'avère que certaines baies comme celle du sorbier des oiseaux, des petites baies rondes et rouges, fermentent avec les premiers frimas. Or, beaucoup d'oiseaux s'en délectent une fois l'hiver venu, et ils se retrouvent complètement dans les vapes. À tel point que certains, comme les jaseurs des cèdres, qui vivent en Amérique du Nord, sont parfois admis dans des centres, comme dans la section spéciale de l'unité de soins aux animaux du Yukon au Canada, où les soigneurs ont mis en place des cellules de dégrisement, histoire de leur éviter une rencontre fortuite avec un building. D'autres animaux, au contraire, tiennent plutôt bien l'alcool. Une étude de 2010 menée par Dara Horbach et ses collaborateurs parus dans le journal scientifique PLOS ONE a étudié les capacités de vol et d'écolocation de chauves-souris qui se nourrissent de nectar, qui deviennent alcoolisées. Pour tester tout ça, les scientifiques ont fait boire aux chauves-souris soit de l'eau sucrée, soit de l'eau sucrée avec de l'éthanol. Ensuite, ils les ont fait voler à travers un corridor jonché d'obstacles, tout en mesurant leur cri d'écolocation. Et là, surprise, il n'y a pas de différence entre les deux groupes. Pour les chauves-souris, boire ou conduire, pas besoin de choisir. Cette résistance aux effets de l'alcool serait une adaptation très utile qui permettrait aux chiroptères de se nourrir longtemps, c'est-à-dire jusqu'à fermentation, de ressources éphémères comme les fruits qui s'abîment vite. Mais notre picoleur gagnant est sans aucun doute le ptylocerque de l'eau, un petit mammifère de la famille des toupailles à l'allure de rongeur mais apparenté aux écureuils volants et aux primates et qui vit en Asie du Sud-Est. Figurez-vous que chaque nuit, pendant 2 heures, le charmant petit animal engloutit un nectar très alcoolisé issu des fleurs du palmier Bertam, qu'il pollinise ainsi. Ce nectar contient jusqu'à 3,8% d'alcool, ce qui équivaut à une bière et à un des niveaux les plus importants que l'on ait pu trouver dans un aliment naturel non modifié. Or, on n'observe aucun effet de l'alcool sur le comportement du ptylocerque, malgré la quantité ingurgitée, ce qui n'a pas manqué de susciter l'intérêt et l'envie des scientifiques. Dans une étude publiée en 2010 par l'équipe de Frank Wines dans le journal PNAS, les chercheurs se sont amusés à calculer l'équivalent en alcool ingéré. Et il s'avère que le petit animal consommerait 115 ml d'alcool en 12 heures, ce qui correspondrait à 9 petits verres de vin pour un humain. Or, à consommation équivalente, les effets de l'alcool sont bien notables chez nous. Mais pourquoi ? En fait, la grande tolérance du ptylocerque pour l'alcool du nectar de ce palmier serait le résultat d'une coévolution. L'animal est attiré par l'odeur de la fermentation, se nourrit du nectar, mais disperse ainsi le pollen de la plante et permet sa reproduction. Donnant, donnant. Une dernière anecdote pour finir. On peut être amené à boire pour oublier, laisser ses soucis derrière soi grâce à une salvatrice ébriété. Il semblerait que les mouches fassent de même. Je m'explique. Une étude de 2012 publiée dans Science par une équipe américaine a tenté de comprendre l'origine d'une addiction et voir le lien avec des récompenses naturelles ou liées aux drogues. Dans l'expérience, deux groupes de mouches étaient utilisés. Un groupe de mâles, mouches rejetées par des femelles, clairement pas tentées par des ébats sexuels, et un groupe de mâles-mouches qui avait la possibilité de s'accoupler avec plusieurs femelles. Ensuite, après ces 4 jours de conditionnement, on laissait le choix à chaque mouche de manger soit de la nourriture contrôle, sans rien, nature, soit de la nourriture avec 15% d'éthanol en plus. Et là, les résultats sont sans appel. Les mouches frustrées du groupe des rejetés choisissaient préférentiellement la nourriture alcoolisée. Des analyses complémentaires ont montré que l'accouplement augmentait la production du neuropeptide F, qui sert de messager dans l'organisme d'un animal et qui est produit quand l'animal obtient une récompense, comme du sexe. Et sans cette activité sexuelle, la quantité de neuropeptides diminuait. Les mâles rejetés avaient un plus bas niveau de neuropeptide F, ce qui expliquerait pourquoi ils sombraient dans l'alcool pour booster leur circuit de récompense. Des mâles à qui on injectait artificiellement du neuropeptide F, eux, évitaient l'alcool. Pas besoin. Donc, rassurez-vous, vous pouvez continuer à boire votre apéro en toute quiétude, vous n'êtes pas seul. Même les oiseaux et les mouches peuvent voir des éléphants roses. Santé. Chez les humains, il n'est pas rare de croiser quelqu'un doté d'un tempérament colérique, lunatique, timide, enthousiaste ou enjoué. Mais qu'en est-il ailleurs chez les autres animaux ? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Laura Gervais, doctorante à l'INRA au Centre d'études du comportement et de l'écologie de la faune sauvage et au laboratoire Évolution et diversité biologique de Toulouse et qui étudie la personnalité chez les chevreuils. Merci Laura d'être avec nous.
Bonjour Agatha.
Alors, pour commencer, moi j'ai une question toute naïve et toute bête, mais c'est quoi la personnalité en fait ? Comment on la définit ?
Alors nous, tel qu'on définit la personnalité, en fait, ce sont des différences comportementales qu'on va retrouver entre les individus. Et en fait, ces individus qui agissent différemment, ça va être cohérent dans le temps. Donc, pour m'expliquer, si vous prenez un chat, un chat roux, qui est par exemple courageux, il sera toujours plus courageux que le chat noir que vous pouvez voir. Et cela, quelles que soient les situations, qu'il rencontre un chien, qu'il soit dans une maison, peu importe le moment de sa vie, il sera toujours plus courageux que ce chat noir.
Que les autres. Voilà. Donc, ça veut dire, quelle que soit la situation, s'il y a un moment où il y a un truc inquiétant, il l'ira tout le temps.
Voilà, c'est quelque chose de cohérent dans le temps.
Ok, donc c'est vraiment ça la définition, c'est l'idée que ça dure dans le temps.
C'est ouais, l'idée que les individus n'ont pas les mêmes réactions. Et que ces différentes réactions, elles, durent dans le temps.
D'accord. Ouais. Mais sauf que, on est d'accord qu'une personnalité peut être multiple, j'imagine. Il n'y a pas qu'un seul caractère.
Tout à fait, oui. Donc, au-delà de cette définition, nous, on calcule 5 grands axes de personnalité.
D'accord.
Donc, qui sont l'exploration. Donc, est-ce qu'un individu a tendance à explorer ou non ? L'activité, est-ce que c'est un individu qui est hyperactif ou plutôt un individu qui a un tempérament calme, posé ? Est-ce qu'on a des individus qui sont courageux ou à l'inverse timides ? Donc, est-ce que c'est des individus qui vont prendre des risques ? On a aussi la sociabilité. Donc, est-ce qu'un individu va interagir avec ses congénères ? Donc, interagir de manière positive.
Donc, toujours avec des individus de la même espèce que lui ?
Oui, tout à fait.
Okay.
Et après, le dernier axe, donc, c'est l'agressivité, où là, à l'inverse, c'est les interactions négatives avec ses congénères.
D'accord. Et au niveau donc, de l'exploration, c'est explorer un environnement nouveau qu'il ne connaît pas ou c'est...
Oui,
d'accord.
Bien sûr. Okay. Oui, oui. Donc, c'est explorer un environnement qui est tout à fait nouveau. À l'inverse, la prise de risque, c'est une prise de risque dans un environnement qui est familier.
D'accord.
Voilà.
Okay.
Après, on ne met pas les individus dans des boîtes, on appelle ça souvent des syndromes, en fait, ces traits de personnalité covarient ensemble.
D'accord.
Et c'est connu dans la communauté scientifique qu'un individu qui est courageux va être aussi plus actif, plus explorateur.
Oui, il y a plusieurs traits qui vont ensemble.
Ça va ensemble, tout à fait.
On ne peut pas avoir un animal qui va être timide, mais qui va prendre des risques dans un nouvel environnement, par exemple.
Ça serait plus probable. De la personnalité, du coup. Oui, oui. Ou par exemple, être timide et agressif... On peut imaginer que c'est contre-sélectionné dans la nature.
Oui, parce que tous ces traits de personnalité, finalement, ils apportent des avantages ou des inconvénients selon que l'animal les présente, j'imagine.
Tout à fait, oui. En fonction des situations aussi. Peut-être que c'est intéressant d'être courageux face à un danger, mais qu'être tout le temps courageux face, par exemple, à une congénère, ça peut être mal perçu et mal adaptatif, si on peut dire ce mot.
Et puis aussi, j'imagine, vis-à-vis de l'homme, si un animal plus ou moins peureux ou non, surtout là, on parle de chevreuils qui sont des animaux qui, des fois, côtoient les chasseurs de près. J'imagine que c'est pas trop rentable non plus d'aller trop près des...
Voilà, on a un compromis entre ces personnalités, puisque les individus qui sont courageux se retrouvent très proches des chasseurs ou de l'homme, par exemple. Mais en contrepartie, ils vont avoir accès aux ressources de manière privilégiée. Donc ça va être les individus les plus gros qui vont être en meilleure santé derrière. Donc il y a toute une histoire de compromis qui se cache derrière ces personnalités. Et on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas une seule personnalité qui est la meilleure dans la nature. En fait, ça dépend complètement de l'environnement où on vit, du temps, de l'année.
Oui, c'est ça. Voilà. Selon les ressources, avoir un trait de personnalité ou un autre peut donner un avantage ou pas du tout sur l'animal, quoi.
Complètement, okay. Oui. Il n'y a pas une seule stratégie.
Et du coup, ces études sur la personnalité, c'est quelque chose de récent ou ça fait longtemps qu'on s'y intéresse ?
Donc la personnalité, on a souvent regardé ça chez l'humain, premièrement. Et ensuite, on s'est rendu compte qu'en fait, les animaux n'agissaient pas tous de la même manière d'un point de vue comportemental. Et effectivement, donc, il y avait cette personnalité. Et donc ça a commencé à partir des années 1900.
D'accord. Ah oui, voilà. Donc c'est vraiment ancien.
C'est oui, à la fois oui et non, puisque par exemple, les traits sur tout ce qui est morphologie, physiologie, tout ça, on a commencé bien avant à regarder les différences entre individus dès les années 1700-1800.
D'accord.
Voilà, donc sur le comportement, ça a été un peu plus tardif. Après, voilà, c'est un domaine qui est en croissance permanente. Et
ça intéresse donc de plus en plus les gens. Bah, c'est vrai, parce que ça veut dire que jusqu'au début des années 1900, on considérait que tous les chevaux étaient pareils, que toutes les vaches étaient pareilles, etc. C'était ça l'idée, en fait.
On regardait au niveau de la population.
Ouais,
donc, on allait dire, par exemple, face à un prédateur, ils vont tous fuir. Ou face à un prédateur, ils vont tous se mettre dans un buisson, etc. Et en fait, Et toutes ces petites différences entre individus, on considérait que c'était du bruit, que c'était pas utile et que ça servait à rien. Et en fait, on s'est rendu compte que non, en fait, ces différences entre individus, c'est important, il faut les prendre en compte.
Bah oui, et puis que ça a une vraie valeur adaptative.
Et que ça a une vraie valeur au niveau de l'évolution des populations plus tard, oui.
Tout à fait. Donc ces cinq grands traits, donc le courage, l'exploration, etc., est-ce que ce sont plus ou moins les mêmes chez l'humain ou pas du tout ?
Alors, chez l'humain, on va retrouver ces définitions des grands axes, mais qui ne vont pas être appelées de la même manière. Donc,
c'est toujours cinq axes, il n'y en a pas plus.
Oui, c'est souvent la majorité des études, ça va être cinq grands axes.
D'accord.
Donc, on a vraiment essayé, la communauté scientifique a vraiment essayé de se calquer sur les études en personnalité humaine, où on va avoir vraiment des ponts et des ressemblances, où on a ces cinq grands axes, pardon. Et en général, c'est le nom qui change un peu. On va appeler ça émotionnalité, des choses qu'on rattache beaucoup plus à l'humain derrière et qu'on essaye d'éviter avec les animaux non humains.
Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que c'est vrai que quand on parle de personnalité, tout de suite, on pense beaucoup à l'humain ? Du coup, ce sont des termes qui sont bien acceptés ou est-ce que dans la communauté, les histoires de personnalité chez les animaux, ça fait encore un peu débat ?
Alors, ça fait débat, oui. Tout le monde n'est pas d'accord. Il y a beaucoup de sceptiques sur la personnalité animale. Parce que je pense que ça vient surtout du fait que justement, c'est rattaché à l'humain, la personnalité chez l'humain, c'est quelque chose avec un processus neuropsychologique supérieur, quelque chose où les animaux sont conscients, il y a une émotion, etc. C'est le terme qui veut ça, mais derrière, c'est des vraies mesures scientifiques.
Bah oui, c'est ça.
Voilà, c'est carré, il n'y a pas du tout de subjectivité comme on peut l'entendre avec la personnalité. Voilà. C'est le terme qui veut ça. Mais beaucoup sont sceptiques, surtout sur le chevreuil. Pour eux, le chevreuil n'a pas de personnalité.
Alors pourquoi le chevreuil serait moins apte à avoir une personnalité qu'un autre ? Parce que c'est un animal sauvage et qu'on côtoie moins ?
Oui, voilà. Il y a cette idée reçue que les animaux sauvages ne peuvent pas avoir de personnalité. Mais parce que c'est souvent parce qu'on ne les côtoie pas, en fait.
Oui, on les connaît moins bien. Donc
Le public a l'habitude d'avoir des animaux domestiques, des chiens, des chats, et on se rend compte que d'un animal à l'autre, personne n'a le même caractère.
Ah, c'est ça.
Mais c'est exactement la même chose chez les animaux sauvages.
D'accord, alors que c'est quelque chose qui est vraiment moins mis en avant. Ok, et bien pour compléter ces réflexions et continuer toutes ces questions passionnantes, je propose une petite intermède musicale. On se retrouve tout de suite après une courte pause. Restez avec nous sur Campus FM. C'était un extrait de la compilation Technicolor Paradise, label numéro groupe, référence 65. Merci d'être toujours avec nous. Vous êtes sur Campus FM 94 FM dans l'émission Le Nid de Pie. Et je reçois aujourd'hui Laura Gervais, doctorante à NIRA, au Centre de comportement et de l'écologie de la faune sauvage et au laboratoire Évolution et diversité biologique de Toulouse, et qui nous parle de chevreuil et de personnalité. Alors juste avant la pause, on parlait de la personnalité qu'on définissait en 5 grands traits. Et ma grande question, c'est vous, avec les chevreuils, comment est-ce que vous y prenez pour mesurer tout ça?
Alors, nous, sur les chevreuils, on va reprendre ces 5 grands traits grâce aux observations comportementales. Donc d'abord, par exemple, le témérité, timidité. Donc c'est le fait de voir si un chevreuil va être en milieu ouvert de jour, puisque les milieux ouverts, c'est très risqué pour eux.
Donc c'est tout ce qui est clairière, champ, etc.
Les prairies, oui, par exemple, les labours, tous les terrains qui n'ont pas de buissons, de forêts, vraiment un habitat refuge. Voilà. Donc ça, c'est la témérité, timidité, donc la prise de risque.
Donc là, dans ce cas-là, vous mesurez le temps que l'animal passe dans des zones à couvert ou pas à couvert, ou comment ça se passe?
Alors, il se trouve qu'en fait, on pose des colliers GPS sur ces individus.
D'accord.
Donc les colliers GPS vont permettre d'avoir les localisations précises des chevreuils. Et donc, on est capable de dire, à midi, il était en milieu ouvert. À 14h, il est passé en forêt, etc. Mmh. Donc nous, on fait une proportion, effectivement, de temps passé en milieu ouvert versus le temps passé en milieu fermé.
D'accord.
Et on a déjà pu constater qu'en fait, les chevreuils n'ont pas les mêmes habitudes le jour et la nuit.
D'accord.
Donc en journée, ils vont plus être dans les forêts, les habitats-refuges.
Et
voilà, plus planqués, exactement, loin de nous. Et la nuit, en fait, il n'y a plus aucune différence entre les individus. Tout le monde, enfin, il y a beaucoup plus d'individus en milieu ouvert, etc. Donc il y a vraiment une utilisation de l'espace qui est complètement rythmée par nos activités derrière.
Ouais, il y a une étude assez récente qui parlait de ça, qu'il y avait pas mal d'animaux qui passaient de plus en plus dans des modes d'activité nocturne pour éviter les activités humaines.
Donc, c'est assez récent. Oui. D'ailleurs, le laboratoire a participé à cette étude et qui a aussi montré notamment qu'en fait, ils étaient moins actifs et ils se déplaçaient moins. Ils étaient plus restreints dans leur espace.
Donc, du fait de l'activité humaine.
Du fait de l'activité humaine derrière des modifications engendrées sur le paysage, oui. Mais du coup, ça aussi, on peut le voir avec un autre axe de personnalité qui est l'activité.
D'accord.
Donc l'activité générale d'un individu. Donc toujours la même chose, avec ses colliers GPS, on est capable de dire si l'individu a été actif. Donc est-ce qu'il a, là en l'occurrence, est-ce qu'il a bougé la tête en fait.
D'accord.
Donc il y a des petits capteurs dans le collier, une bille qui tape quand il bouge la tête de droite à gauche.
D'accord.
Et quand il baisse la tête et qu'il remonte la tête.
Okay.
Donc on est capable de dire si l'individu a été très actif, peu actif, etc.
Alors que s'il dort, on peut penser que justement ça ne bougera pas dans son collier. Et que
exactement, voilà.
D'accord.
Donc ça permet de distinguer ces moments-là.
Okay.
À l'inverse de ce que je disais plus tôt, la témérité, timidité. Parce qu'il peut très bien être en mi-ouvert, mais dormir, ou être mi-ouvert et être hyperactif, justement, pour éviter les risques derrière.
Okay.
Donc c'est assez complémentaire.
Donc là, on voit bien la distinction. Ouais. Okay.
Ensuite, l'exploration. Donc l'exploration chez les chevreuils, on est capable de définir ce qu'on appelle un domaine vital, c'est-à-dire l'endroit où un individu va vivre, manger et se reproduire.
D'accord.
Et toujours grâce à ces fameux colliers GPS, on est capable de dire quand est-ce que l'individu sort de cet habitat, de cette maison pour lui. Et on considère ça comme de l'exploration.
D'accord.
Donc on peut calculer le temps qu'il a passé en dehors de cette zone de confort, mais aussi la distance qu'il a parcourue derrière.
Mais ça va être assez compliqué de déterminer le domaine vital de chaque individu, en fait, comme vous y prenez. Juste en regardant les endroits où on le voit souvent, c'est...
Oui, alors on a des méthodes, des modèles statistiques qui permettent de faire ça, où on regarde les points sur l'année.
Okay.
Et en fait, on va prendre, par exemple, là où il y a le plus de points. 95% des points sont à cet endroit, donc on peut dire qu'il a un domaine vital de 20 hectares, par exemple.
D'accord.
Voilà, qui va changer ou pas selon les saisons. Donc, c'est vraiment des modèles statistiques derrière qui nous permettent de délimiter les frontières, les frontières de son domaine vital.
Ouais, parce que sinon, c'est très compliqué, j'imagine. Je ne sais pas s'ils marquent leur territoire comme le font d'autres animaux.
Les mâles sont territoriaux.
D'accord.
Alors, ils vont défendre, ça va être des petites guéguerres entre les mâles, surtout pendant les périodes juillet-août. Après, sur le marquage, oui, effectivement, ils vont venir frotter les bois sur les arbres. Donc, c'est vraiment assez spectaculaire à voir. Ils peuvent vraiment... détruire toute l'écorce qu'il y a sur les petites branches, etc. Donc, la territorialité, c'est vraiment quelque chose de central chez le chevreuil.
D'accord.
Ce domaine vital aussi, et il y a des études qui sont en cours sur ce domaine
vital. Là-dessus, justement. Oui. OK. Et alors, donc, on en a fait quatre.
Nous manque sociabilité et agressivité.
Ouais.
Qui sont les deux que nous n'avons pas pu mesurer pour le moment chez le chevreuil. C'est très compliqué à voir en milieu naturel.
Oui, j'imagine.
Donc déjà, la sociabilité, il faut savoir que le chevreuil, à la base, ce n'est pas du tout une espèce grégaire.
D'accord.
Donc quand il vivait encore dans les forêts, mais il vit toujours dans les forêts dans certains pays, c'est une espèce qui est solitaire. Et en fait, là, dans ce paysage hétérogène où il est au milieu des champs, des prairies, des maisons, il se trouve qu'il se regroupe en petits groupes, 2-3 individus, 7, mais ces groupes se font, se défont, c'est assez compliqué à observer.
Oui.
Donc, pour le moment, on garde toutes ces observations précieusement, mais on n'a pas encore cet axe de personnalité mis en évidence.
D'accord. Très bien. Et pour l'agressivité, du coup ?
Et l'agressivité, on a quelques cas où, effectivement, on voit des mâles se battre, où il y a des interactions négatives, mais on a tellement du mal à les observer en milieu naturel que, pour le moment, nous n'avons pas suffisamment d'individus pour pouvoir conclure quelque chose derrière.
Parce que, justement, j'allais vous demander, vos chevreuils, donc ce sont des chevreuils sauvages.
Oui,
qui sont en milieu naturel.
Oui, alors pas si loin de Toulouse.
D'accord.
On est à 1 heure de Toulouse,
okay.
Dans un paysage qui est complètement hétérogène, qui a été modifié par l'homme. Donc on va se retrouver avec des parcelles agricoles, des forêts, des îlots, des haies assez régulièrement.
D'accord. Et vous suivez combien d'animaux ? Parce que, comme on disait, il vous faut pas mal de données pour pouvoir avoir ces fameux traits.
Oui, c'est très coûteux en termes d'animaux. Donc ça fait plus de 20 ans que le laboratoire travaille sur cette espèce. Et actuellement, on a suivi plus de 600 chevreuils.
Ah oui.
Voilà, à peu près chaque année, on fait une cinquantaine de chevreuils.
Donc pour lesquels vous leur posez des colliers à chaque fois, c'est
ça ? Tout à fait, oui. Donc pour ça, en fait, on conduit des captures en janvier-février.
D'accord.
Où en fait, on pose des kilomètres de filets à travers le paysage. Et il y a en fait des personnes qui vont rabattre les chevreuils dans le filet. Et une fois qu'il est dans les filets, on l'immobilise, vraiment on essaye de minimiser le stress au maximum. Et plus tard, on va pouvoir le manipuler et du coup poser ses colliers GPS qui nous permettront ensuite de pouvoir les retrouver et les observer dans la nature.
Donc ça, c'est quand même... Donc vous le faites juste une fois, vous marquez l'animal et ensuite, vous avez toutes les infos qu'il vous faut grâce au collier pour le retrouver, etc.
C'est l'intérêt du collier GPS, oui. Après, ce qui est très avantageux ici, c'est qu'on peut récupérer... On peut récupérer un individu d'une année sur l'autre et on est capable de suivre si justement son comportement est cohérent à travers les années.
Parce que c'est ce qu'on disait sur la personnalité, il faut que les traits soient reproductibles sur le long terme. Est-ce que c'est le cas par exemple sur toute la vie de l'animal ou ça peut quand même arriver qu'il y ait des variations ?
Alors ça c'est encore sujet à débat et à de nombreuses recherches, justement jusqu'à quel point on peut parler de répétabilité ou de cohérence. Donc souvent les études c'est fait sur une courte échelle, on va regarder entre mois, entre jours, justement parce qu'on a du mal à avoir les individus d'une année sur l'autre.
Oui.
Et là, il se trouve que nous, on a ces individus d'une année sur l'autre et c'est répétable d'une année sur l'autre. Donc, on a quand même quelque chose qui est sur du long terme.
D'accord. Mais donc aussi, auparavant, vous me disiez que quand vous attrapiez donc, ces chevreuils, vous leur mettiez ce collier. Mais vous en profitiez aussi pour prendre un tout petit échantillon de peau
oui.
pour faire des analyses génétiques. Alors, qu'est-ce que vous faites de beau avec ces analyses génétiques ? Qu'est-ce que vous cherchez ?
Donc là, c'est particulièrement mon sujet de thèse. Donc je suis très spécialisée en personnalité, mais notamment en génétique de la personnalité. En fait, avec ces échantillons de peau, on va pouvoir plus tard extraire de l'ADN chez les individus. Et cet ADN va permettre de savoir à quel pourcentage les individus vont être apparentés entre eux.
D'accord, par exemple, ils sont proches.
Oui, tout à fait. Si par exemple, on a une mère et son petit, on sait qu'ils vont partager 50% des gènes entre eux.
D'accord.
Donc là, on va avoir cette info, ils partagent 50%, 25%, 15%, etc. Et ça va nous permettre de déterminer si la personnalité a une base génétique derrière.
D'accord. Donc, oui.
Ou si c'est quelque chose qui est purement dû à de l'environnement.
Okay.
Donc typiquement, s'il y a de la génétique derrière, on peut dire qu'il peut y avoir évolution, ça peut être soumis à la pression de sélection,
c'est ça.
Et qu'il peut y avoir réponse du comportement derrière.
D'accord. Et ce genre d'étude, c'est quelque chose de novateur ou ça a déjà été fait auparavant, ce lien entre la génétique et la personnalité ou pas du tout ?
Alors la génétique de la personnalité, ça a souvent été fait dans des conditions contrôlées, donc
d'accord,
en laboratoire. Voilà, donc c'est très compliqué en milieu sauvage. Donc là, c'est novateur d'avoir accès à cette information en milieu sauvage.
Et c'est vraiment donc nouveau. Ça a été fait sur d'autres espèces en milieu sauvage ou pas du tout ?
En milieu sauvage, on a quelques études qui commencent à se distinguer, mais c'est souvent des mésanges, donc des oiseaux voilà, qui sont facilement attrapables et manipulables. On a par exemple le cerf de l'île de Rhum,
d'accord.
mais qui est sur une île.
Oui, qui est très spécifique. Ouais.
Voilà, qui est assez facile à attraper et on peut avoir toute la population derrière.
Mais c'est vrai aussi que le chevreuil, il a cet avantage d'être un animal qui vit quand même un petit peu longtemps. Ça vit combien de temps un chevreuil s'il ne rencontre pas les plombs d'un chasseur ?
Alors un chevreuil, ça vit en général entre 12 et 16 ans. C'est une espèce assez... Alors, chez les ongulés, c'est une espèce qui meurt jeune.
D'accord.
Jeune. Normalement,
parce que les plus gros animaux, comme les cerfs, etc., ça vit plus vieux ?
Ça vit beaucoup plus vieux, oui. D'accord. Ça peut atteindre beaucoup plus longtemps.
Mais c'est vrai que du coup, cette durée de vie, ces animaux sauvages, vous avez un long panel pour voir l'évolution du temps et pour voir l'évolution de la personnalité. Justement, ça peut être intéressant, ce modèle-là, de voir sur plusieurs années si ça peut changer ou non.
Tout à fait, pour voir si ça peut changer, sachant que d'une année sur l'autre, c'est pas les mêmes pratiques agricoles qui sont derrière. Il n'y a pas la même pression de chasse d'une année sur l'autre. Du coup, c'est intéressant de pouvoir suivre ça chaque année.
Et donc, vous, chaque année, vous allez sur le terrain pendant longtemps ? Comment ça se passe ?
Alors oui, on a plusieurs sessions de terrain,
d'accord.
auxquelles d'ailleurs je vous convie.
Si vous cherchez donc des volontaires, c'est le moment, on profite de campus pour faire une annonce. Si vous voulez venir aider Laura à attraper les chevreuils, c'est l'occasion.
Tout à fait, donc on cherche des bénévoles chaque année donc pour les captures de chevreuils en janvier-février.
D'accord.
Donc n'hésitez pas à nous contacter avec notre site, donc CEFS INRA, que vous trouverez très facilement. Où en fait, nous, comme je vous expliquais tout à l'heure, donc, on pose des filets, on rabat les chevreuils. Donc il nous faut des personnes pour pouvoir attraper ces chevreuils, les manipuler et les relâcher ensuite, bien entendu. Et ensuite, on a d'autres sessions de terrain tout le long de l'année, en fait, pour vraiment suivre les rythmes biologiques du chevreuil. Donc on va regarder en milieu naturel le comportement des chevreuils. Donc on regarde surtout le temps qui va passer vigilant. Donc le compromis entre « je suis vigilant, je regarde ce qu'il y a autour » et « je mange ».
J'en profite pour remplir la panse.
Voilà. Donc on voit vraiment des différences flagrantes. Il y a des individus, ils mangent, et jamais ils regardent autour d'eux. Et puis il y en a, ils prennent une bouchée, hop, ils regardent. Ils prennent une bouchée, ils regardent. Donc là, c'est vraiment drôle à voir. Et voilà, après on suit la période de reproduction, la période de territorialité. Donc tout ça, tout ce terrain qui se cumule tout le long de l'année. Avec ces conditions météorologiques
variables. On sent qu'il y a eu un petit peu de détresse dans le froid, la pluie, le vent.
Le brouillard, ouais. Avec des individus présents mais invisibles.
Bien cachés dans les buissons. Et au niveau, alors je sais que c'est toujours un peu prémédité la question qui fâche quand on pose la question au thésard, mais est-ce que vous avez déjà quelques premières observations de ce lien entre génétique et personnalité? Qu'est-ce que vous avez pu observer jusqu'à présent?
Alors oui, donc là c'est tout neuf de quelques semaines,
ah.
Donc en exclusivité.
En exclusivité mondiale.
On a une base génétique de la personnalité, ça sur plusieurs axes de
D'accord.
personnalité, donc pour la témérité, pour l'activité, pour l'exploration. Donc on peut dire que ce comportement peut être amené à être modifié par une sélection, qu'elle soit naturelle ou artificielle, induite par l'homme, la chasse, etc. Mais il n'y a pas que la génétique qui joue, il y a aussi des effets de l'environnement.
Bah oui, c'est ça.
Donc pas de panique, si vos parents ont un mauvais caractère, vous pouvez être sauvés encore.
Eh bien, sur ces bonnes paroles, je crois qu'on va s'arrêter ici. Merci beaucoup, Laura, pour toutes ces précisions sur la personnalité des chevreuils. J'espère pouvoir lire prochainement vos prochaines découvertes et vos premières conclusions. Et je voudrais vous parler donc d'un événement qui aura lieu tout bientôt au Muséum d'histoire naturelle de Toulouse et qu'il faut que vous notiez dans votre tablette. Du 21 au 25 novembre aura lieu la 10e édition du festival Terre d'ailleurs, organisé par l'association Délire d'encre. Et cette année, nous visiterons les îles. De la Martinique aux froides îles Falkland, en passant par la Polynésie, Madagascar ou les terres australes françaises, il y en aura pour tous les goûts. Et avec en plus pas mal d'animaux au menu. Requins, colibris, lémuriens, manchots et tant d'autres. Ce festival dédié aux explorations scientifiques, à la découverte et au voyage, propose des projections de films toute la semaine, mais aussi des conférences, des expositions et même des ateliers le week-end pour s'initier à la création de carnets de voyage. Et on me dit même dans l'oreille que Campus FM pourrait bien être de la partie pour vous en faire un peu profiter à distance. En tout cas, on vous attend. Rendez-vous au Muséum de Toulouse le week-end du 24-25 novembre et à partir du 21 pour des projections en semaine. Et c'est déjà la fin de notre émission. Un très grand merci à Thomas Delafosse, à la technique, à toute l'équipe de Campus FM et merci à toutes et à tous d'avoir été au rendez-vous. Je vous dis à dans 15 jours, à 17h, pour de nouvelles aventures animalières et d'ici là, gardez la pêche.